Merci Francky. Bonjour à tous. Enfin, on s'est déjà vu tout à l'heure. Il fait bon, n'est-ce pas? Il fait très bon. Merci Seigneur pour cette douceur que le Seigneur nous accorde. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment suivre Jésus. Alors le titre que j'ai choisi, c'est « Ressembler au Maître ». Ressembler. Comment nous pourrions justement ressembler au Maître, notre Maître parfait. Et voilà, je ne sais pas si vous avez eu jusqu'à maintenant des mentors dans votre vie. Oui ? Pas forcément des mentors spirituels, mais en tout cas des gens qui vous ont appris quelque chose. Oui, hein ? Et puis il y a eu aussi plusieurs mentors. Moi, j'ai eu plusieurs mentors dans ma vie. Quand j'étais petit, c'était mon frère. Il était vraiment l'exemple parfait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Donc pour moi, c'était mon héros. Et puis petit à petit, en grandissant, je me suis dit non, il peut pas être le héros. Il a tellement de défauts aussi. Après, j'ai changé, etc., etc. Et puis voilà, on a toujours des mentors comme ça, avec qui on peut peut-être discuter, prier ensemble, grandir ensemble aussi. Il faut un bon spécialiste justement pour que nous puissions grandir dans la foi. J'aimerais ce matin vous parler de ski. Ah ben, tout à coup comme ça, hein. Alors qu'il fait super beau. Je me suis dit, c'est vrai qu'à cette période, au mois d'avril, quand j'étais en Alsace, je skiais. Même en avril. J'étais un fou de ski. Chaque lundi, c'était mon jour de congé, chaque lundi à 9h du matin, j'étais sur le mont, prêt à descendre. Parce que la station ouvrait à 9h du matin. Donc à 9h du matin, j'étais là, avec mes paires de ski, prêt à descendre. On avait quoi, une station de ski 40 minutes de voiture, donc c'était pas très très loin. Et puis comme j'avais mes paires de ski et que l'abonnement pour le matin c'était pas trop cher, donc je pouvais me permettre en tout cas de skier, surtout un lundi où il y a personne. Donc c'était vraiment super, je pouvais faire toutes les pistes, même aller dans la forêt, etc. C'était vraiment super. Mais comment j'ai aimé ce ski? Tout simplement parce qu'en arrivant à Fastad, je rencontre un gars qui a 80 ans. Il me demande, Jean-Haut, est-ce que tu aimes skier? Après, je me suis dit, j'ai déjà skié. Dans mon passé, j'ai dû skier peut-être 2 semaines, voire 3, je ne me rappelle plus. Il a dit, si tu aimes ça, je t'apprends. Et donc, en fait, il était un moniteur de ski. Donc, du coup, chaque lundi, en plus, il m'avait donné les matos pour pouvoir skier. Donc, chaque lundi, il était avec moi. Je le suivais et je progressais, etc. C'était vraiment super. Moi, tout seul, j'aurais jamais appris à bien skier comme ça. C'est grâce à lui. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la photo. Hein. Je suis en hauteur, là. chaque lundi, mes gars avec qui je skiais, hein, eux aussi, ils avaient leur jour de congé. Donc, nous, on allait skier ensemble, soit à Marstheim ou soit à Engelberg, à 3000 mètres en Suisse. Voilà. Donc, c'est important, oui, d'avoir quelqu'un qui peut nous apprendre des choses. D'ailleurs, cet après-midi, avec Émilie, nous aurons une activité, n'est-ce pas ? Une sortie botanique. Vous savez qu'Émilie est spécialiste dans ce domaine, hein, et donc elle a préparé cette excursion avec des participants, enfin, en tout cas pour ceux qui ont préparé, avec des participants pour explorer la nature, pour apprendre davantage sur les plantes qui nous entourent. En tout cas, heureusement qu'on a Émilie pour nous, qui peut gérer tout ça, pour expliquer chaque plante, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. En tout cas, je pense qu'elle a bien choisi un lieu approprié pour cette excursion. Nous avons un très bon guide. Imaginons maintenant que ce même groupe de cet après-midi décide de faire de la randonnée en montagne. Et le guide s'appelle un certain Jean-O, qui prétend être un expert en randonnée, mais qui ne connaît rien du tout. C'est vrai, hein, moi je ne connais rien du tout. J'aime bien courir, marcher, quand il y a un ballon devant moi. Mais s'il n'y a rien, je ne peux pas marcher. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'avec ma femme, je ne peux pas faire de randonnée. Il n'y a pas de ballon. Sauf le ski. Voilà. Donc, imaginez ce groupe-là qui accepte de me suivre. Et imaginez aussi que moi, qui me trompe dans le choix du sentier, et je sous-estime la difficulté du parcours. Et puis, je conduis tout le groupe dans une zone dangereuse où le terrain devient glissant. Il y a un risque réel pour la sécurité de tout le monde. Dans cet exemple, oui, moi qui manque en réalité de compétences et de connaissances nécessaires, c'est à cause de cela que les gens peuvent se trouver en danger. Oui, ce groupe-là je pense que ce groupe pourrait suivre le pasteur aveuglément. Mais si le pasteur est aveugle, comment ça va se faire? Dans Matthieu 15, verset 14, il est dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Important. C'est une parole que Jésus a dit en se référant aux pharisiens qui étaient complètement à côté de la plaque. Eux qui connaissaient bien la parole de Dieu, quand ils ont vu Jésus arriver, réaliser plein de miracles, réaliser plein de promesses que les prophètes avaient prophétisées dans l'Ancien Testament, ils ont vu que dalle. Ils n'ont pas vu la réalisation de la promesse de Dieu. Ils étaient complètement aveuglés par la convoitise, aveuglés par tout ce qui leur offrait la religion. Et là, oui, dans cette parole où on ne doit pas suivre les aveugles, il y a deux leçons à retenir. D'abord, s'examiner soi-même si on n'est pas des aveugles. Et puis, deuxièmement, trouver un bon mentor, un bon maître pour prendre le bon chemin. Est-ce que vous suivez le Seigneur Jésus de manière intime, je veux dire, proche? Vers qui pouvons-nous nous tourner pour trouver la bonne direction? C'est Jésus, bien sûr. Il est notre guide suprême, notre enseignant le plus compétent. Il n'est pas le moniteur de ski, mais en tout cas, il est notre enseignant le plus compétent. Ah, il pourrait l'être. Notre expert en tout. En résumé, il représente l'exemple parfait à suivre dans tous les aspects de la vie. Dans Éphésiens 2, tu peux afficher la parole, dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Oui, nous étions condamnés à la mort, mais par la puissance de Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes, vous et moi, devenus les enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Et nous avons reçu par la foi une nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, oui, nous avons été appelés à devenir son peuple, ses enfants. Et nous sommes aussi également appelés à suivre notre maître, par excellence, bien sûr, Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a libérés de tous nos péchés. Il nous a restaurés pour entretenir une relation avec notre Créateur. Et puis, dans ce verset, si nous regardons bien, la raison de notre création, c'est quoi? C'est pour accomplir de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour notre propre plaisir ou pour notre propre convoitise, mais pour réaliser les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. J'aimerais encore afficher une parole dans Éphésiens 4, à partir de verset 11. Vous savez que Dieu nous a appelés à être des apôtres, enfin verset 13 plutôt, à être des apôtres, des prophètes, ou des évangélistes, des pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il nous a donné des dons, que ce soit pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste, pour perfectionner les enfants de Dieu en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et ce qui est bien, c'est que au verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi ». C'est un peu une phrase un peu compliquée quand même. Dieu nous a appelés. Nous sommes devenus ses créatures. Dieu nous a donné plein de dons pour nous enseigner, pour nous faire apprendre des choses, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. C'est-à-dire, il veut que nous parvenions, tout d'abord le premier point, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Deuxièmement, il veut que nous parvenions à l'état d'homme fait. Et troisièmement, il veut que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un peu difficile comme phrase, hein? Ouais? Ça vous fait réfléchir quand même. Alors, moi j'ai peut-être... Tout d'abord, comment on peut parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance? Il y a la connaissance et la foi. Et il dit qu'il faut qu'il y ait l'unité entre la foi et la connaissance. C'est quoi la foi? Vous savez très bien que la foi nécessite une croyance commune en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas confesser que Jésus est le Seigneur. Et cela inclut aussi la foi. La foi, c'est quoi? La foi inclut la reconnaissance de Dieu comme notre Créateur souverain. Oui, nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mais aussi que notre Créateur, notre Dieu le Père, est notre Créateur souverain, celui qui nous aime inconditionnellement, qui nous protège et en qui nous pouvons faire confiance. Il est rempli de bonté, de paix pour nous. Et tout ça, c'est la foi. Et puis, ça c'est côté la foi, et puis il y a aussi côté connaissance. Une connaissance implique une compréhension commune de qui est Jésus, de ce qu'il a accompli pour nous. Et voilà, donc, il y a deux choses. Parfois, je vois des gens qui ont la foi, mais qui manquent énormément de connaissances. Ils ont expérimenté dans leur vie un miracle, peut-être, un songe. J'ai entendu une dame qui me disait « Ah, tu sais, Jean-O, quand il y a 20 ans de cela, dans un songe, j'ai vu Jésus. Et depuis, je crois en Dieu. » Est-ce que vous avez entendu ce genre de témoignage, hein? Elle ne connaissait rien de Dieu, et vraiment, Dieu s'est approché, et non seulement dans un songe, mais aussi de ses propres yeux, elle a vu un miracle, Jésus venir en elle. Elle a expérimenté cela. Elle avait la foi depuis ce jour-là, mais elle a délaissé la connaissance de Dieu. Elle a délaissé la parole de Dieu. Et donc, il y a un certain déséquilibre entre la foi et la connaissance. Je connais aussi d'autres personnes qui ont une grande connaissance de la théologie, de la parole de Dieu, mais qui n'ont pas la foi, qui ont une petite foi même. Et là, il y a aussi un déséquilibre. Le Seigneur dit, il faut parvenir à l'unité de la foi, mais aussi de la connaissance de Jésus-Christ. Les deux en même temps, il faut progresser, il faut grandir ensemble. C'est cette combinaison qui nous permet de vivre une vie en harmonie avec le Seigneur. Est-ce que ça vous parle maintenant un peu plus? Parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, ça va mieux un peu. Ouf. Parce que c'est vrai que c'est pas une parole assez facile. On lit souvent, parce que Éphésiens 4, c'est le chapitre le plus célèbre pour parler de l'unité, mais on parle pas forcément en détail les choses. Je pourrais encore détailler plein de choses, mais je me suis arrêté sur ce verset-là aujourd'hui, ce matin. Autrement dit, si je résume un petit peu, parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance, c'est la croissance. C'est la croissance dans la foi, c'est la croissance. Désir de grandir. Voilà, on pourrait dire parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance, c'est avoir ce désir de grandir, d'aspirer à une croissance spirituelle continue, et puis nous élever dans la connaissance de Dieu et aussi approfondir notre relation avec lui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est parvenir aussi à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. J'ai l'impression que dans cette phrase, on a l'impression que on est un peu plus avancé que la première partie. Ce sont des personnes, enfin voilà, hein, il est bien dit au verset 11 que voilà, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces personnes ont pour mission de préparer tous ces fidèles à grandir, comme on vient de voir là à l'instant même, et puis que cela implique une compréhension profonde de sa personne, de son caractère, de ses enseignements et de son œuvre rédemptrice. Nous sommes appelés à nous rapprocher progressivement de lui dans notre relation personnelle, mais aussi à apprendre à le connaître intimement, à l'imiter dans notre vie. Et la conséquence, c'est qu'on parvient à l'état d'homme fait, c'est-à-dire nous ne sommes pas améliorés, nous sommes transformés. Nous avons tout à l'heure chanté un chant, Dieu nous transforme. À l'état d'homme fait, c'est nous avons été transformés. Ce n'est pas un petit changement, c'est transformé. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est là, parce que le Seigneur a agi, parce qu'il y a les fruits de l'Esprit de Dieu qui est là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tous ces fruits de l'Esprit de Dieu est en nous et ça nous a transformés à travers aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Parvenir à l'état d'homme fait. Si je résume avec un autre mot, je dirais ce deuxième point, c'est le désir de devenir plus mature. Désir de grandir, ça c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est, je dirais, le désir de devenir plus mature. Mature, ça veut dire adulte. On a quand même une certaine expérience. Nous cherchons, c'est vrai, tous à développer une maturité spirituelle qui nous permet justement à surmonter les épreuves. Ceux qui ont une petite foi, une petite connaissance, ils ont du mal à gérer quand une grande tribulation arrive. Mais ceux qui ont une certaine maturité, malgré les épreuves, eux, ils peuvent traverser sereinement parce qu'ils ont déjà une certaine expérience avec le Seigneur. Ils savent qu'avec le Seigneur, nous n'avons rien à craindre car le Seigneur est avec nous, nous protège, nous accompagne, même si en ce moment, c'est super difficile. J'ai perdu le fil. Oui, l'homme à l'état, voilà, parvenir à l'état d'homme fait. Et puis troisième point, parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh, il y a le mot parfait, ça nous fait peur, parce que on n'est pas parfait, nous. Il n'y a que seul Dieu est parfait. Et là, il dit, il faut qu'on parvienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous avez compris à ça? Moi, j'ai, au début, quand je lisais ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dû lire chaque verset, chaque mot, la traduction et puis les commentaires. pour enfin comprendre cette partie-là. Dans ce contexte, donc, Paul parle de la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, cela fait référence à l'exemple suprême de maturité spirituelle et de perfection trouvée en Jésus-Christ. Jésus, oui, est notre modèle parfait par excellence. Et puis, nous devrions justement marcher derrière lui, à le suivre davantage. Mais ici, il est dit « à la mesure de la stature parfaite de Christ ». Ça signifie que, oui, il faut être conforme à son image, il faut être conforme à son caractère, à ses qualités divines. Dans notre vie quotidienne, c'est un appel à la sainteté, à la sanctification, à la perfection de Christ. Tu peux... Voilà. Le désir de devenir sanctifié. Troisième point. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne serons jamais parfaits tant que nous sommes sur cette terre. Mais Jésus a déjà montré l'exemple. Et puis, parfois, vous savez que quand nous avons grandi, lorsque nous avons atteint, réalisé une certaine expérience avec le Seigneur, nous avons même porté un certain fruit, le Seigneur aussi nous inspire à être saint, à être purifié, à ressembler, à adorer, à chérir cette sainteté dans notre vie. Parfois, quand je... voilà mon désir, bien sûr, quand on me pose souvent la question, Jean, c'est quoi le sujet de prière pour toi? Ben, je dis, comme d'habitude, hein, devenir toujours le bon pasteur, que je sois vraiment quelqu'un droit, juste, pour que je n'aie pas à rougir devant le Seigneur quand je serai devant lui. Je sais que nous, les enseignants, nous serons jugés plus sévèrement. Donc, c'est pour ça qu'on doit scruter davantage la parole de Dieu pour examiner, pour transmettre la bonne parole. Et c'est pour ça que, pour moi, mon souhait, c'est vraiment devenir un bon pasteur. Mais en faisant cet exercice de vouloir devenir un bon pasteur, parfois, je me dis, waouh, aujourd'hui, je suis vraiment... bien. Dans ma prière, je me dis, mais Seigneur, on sent cette sainteté. Pardon. Quand on se rend compte que nous sommes vraiment pécheurs et quand on se rend compte vraiment de l'amour de Dieu. Comme je disais, nous ne pourrons jamais être parfaits comme Jésus-Christ. Nous ne pourrons jamais être parfaits comme lui. Mais le Seigneur nous dit, l'image suivante, s'il te plaît. Voilà. Ces trois choses doivent être une sorte d'ADN. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Ça veut dire que nous avons été transformés. Et Dieu nous a accordé une nouvelle ADN. Et les trois choses, c'est-à-dire... ce désir de grandir, ce désir de devenir mature, ce désir de devenir sanctifié doit être ancré en moi, pour aller de l'avant. Et c'est comme ça que on fait, en fait, cette idée de parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça suggère un processus progressif. Nous ne pourrons pas devenir parfaits ici sur terre, mais le Seigneur peut vraiment nous accorder cette progression, cette croissance en continu cette transformation intérieure, cette sanctification pour pouvoir leur ressembler. Dans Jacques 1, verset 4, voilà. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaite et accomplie sans faillir en rien. Dans cette sanctification, dans cette voilà, phase où on parvient à la progression, à la maturité spirituelle, dans Jacques, en tout cas, Dieu nous propose, en tout cas nous dit qu'il faudrait justement la patience pour que nous puissions accomplir des œuvres parfaites sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà un homme presque parfait, comme Jésus, enfin Jésus qui était parfait. Ben, il faut aussi demander cette patience, être un homme sage. On doit faire des efforts, en tout cas, pour atteindre ce niveau personnel, ce niveau maturité spirituelle et sanctifiée pour ma vie personnelle, mais aussi au niveau communautaire. Dieu nous appelle à grandir dans la foi, à devenir mature, à devenir plus sain au niveau communautaire, pas seulement une seule personne, au niveau communautaire. Et ça, il faudrait vraiment qu'on... Et pour cela, nous avons besoin aussi de s'entraider les uns des autres. Si nous voyons quelqu'un qui tombe, on est là pour le relever. Si quelqu'un... on est là en tout cas pour s'entraider. Tu peux montrer le dernier diapo? Ouais. Non, c'est pas le dernier. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tu peux remettre, ouais. Vous voyez, il y a le chemin. Au bout, il y a le Christ. Au bout, il y a le Christ. Et nous sommes sur ce chemin pour pouvoir ressembler parfaitement Jésus-Christ, qui a été toujours un exemple extraordinaire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, nous devons le suivre tant que nous vivons sur cette terre. Au verset 14, après le verset 13, il y a le verset 14 où il est dit, Paul, en tout cas l'apôtre Paul, nous met en garde contre le fait d'être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, un enfant, il est très facilement influençable. Les adultes, non. Un enfant est influençable. Et c'est pour ça que c'est important de grandir dans la foi. Qu'on ne soit pas des enfants spirituels. Qu'on ne soit pas des... On pourrait être des enfants pendant 40 ans aussi. Moi, je les appelle les handicapés spirituels. On ne devrait pas être des handicapés spirituels. On devrait être des adultes. On devrait être vraiment un adulte mature. Ce passage nous présente une image de la fragilité spirituelle. Parce que le diable est là. Il n'aime pas qu'on grandisse. Il ne veut pas qu'on ait une relation intime avec le Seigneur. Et donc, oui, il y a toujours cette vulnérabilité qui est présente lorsque nous sommes enfants. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons être tentés. C'est pour ça aussi que nous devons justement veiller à ce que ces choses-là ne nous atteignent pas. Cette semaine, une sœur m'a écrit un mail en disant « Jean-O, oui, tu sais, est-ce que tu connais une église qui s'appelle Nouvelle Terre, Nouveau Ciel ?» Elle dit « Nouveau Ciel. » Et « Non. » Et puis elle m'explique que voilà, c'est, apparemment les gens se doutent de cette église et les gens de cette église me proposent de faire une étude biblique. Voilà. Alors que elle, de son côté, elle s'était dit justement ce temps-ci, ah, j'aimerais quand même approfondir la Bible, connaître Dieu. Et je me suis renseigné. Et puis en plus, elle disait. Et tu sais, il est coréen. Donc je peux lui faire confiance. Ah, d'accord, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, en fait, parce qu'il y a une secte qui est entrée en France, et ça s'appelle, effectivement, si on traduit en français, c'est nouveaux cieux et nouvelle terre. Elle dit, attention, c'est une secte, etc., etc., et puis il faut faire attention. Elle a failli aller, mais elle n'y est pas allée. Heureusement d'ailleurs. J'ai dit, tu sais ce qu'ils croient ? Ils croient que leur pasteur, enfin leur papauté, on peut dire comme ça, est l'agneau de Dieu. Mais ils ne disent pas au début. Hein. Ils étudient la Bible comme tout le monde, comme une église normale. Leur caractéristique, c'est qu'ils s'introduisent dans les églises normal et ils proposent aux gens, est-ce que tu veux faire une étude biblique avec moi en dehors de l'étude biblique que l'église font pour approfondir, et c'est comme ça que eux ils transmettent leur idéologie, leur fausse doctrine. Alors ça existe en France aussi. Comment nous devons agir dans ce cas-là? Vous savez, le diable rôde comme un lion rugissant pour nous faire tomber. Nous devons veiller, nous devons être sur notre qui-vive pour voir si, voilà, ce que Jean-O enseigne est juste. Vous savez, comme les Béréens dans les Actes. Dieu nous demande que les fidèles s'examinent eux-mêmes si la parole prêchée est la bonne parole. Si ce que je vous enseigne est fausse, vous devriez avoir ce courage pour venir me voir et dire, Jean, tu t'es trompé. Et comme ça, voilà, c'est comme ça qu'on peut s'examiner soi-même, nous-mêmes aussi, pour grandir ensemble. Parce que je ne suis pas infaillible comme le pape, apparemment. Je suis faillible. Et je pense, il n'y a pas que moi, je pense que les anciens aussi, nous sommes tous faillibles et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir enseigner. Et moi en tout cas, je le porte ce ministère avec tremblement et crainte. En tout cas, de votre côté, il faut s'examiner, hein, il faut examiner l'enseignement, si ce que voilà, le prédicateur enseigne est juste ou pas. Oui, si on fait cet exercice-là, on sera toujours dans la vérité. Si on fait cet exercice-là, on va progresser aussi. Si on fait cet exercice-là, bah même s'il y a des tentations ou des sectes qui viennent vous importuner, vous pouvez vraiment les chasser, les quitter avec des bonnes paroles. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse pour grandir dans la foi. Que nous puissions vraiment avoir des bons mentors, comme j'ai eu avec mon moniteur de ski. que nous puissions vraiment avoir des spécialistes, des bonnes personnes aussi autour de nous. Il n'y a pas que Dieu, mais aussi des frères et sœurs en Christ qui peuvent vous aider à grandir dans la foi, vous aider à devenir plus mature et plus sanctifié. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière.